Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Si vous êtes du genre qui range l'humanité en deux catégories, les bons et les méchants, je vous préviens, dans l'histoire d'aujourd'hui, vous êtes mal barré. Parce que le tueur, l'assassin de mon histoire, est par ailleurs un homme admirable. Votre conscience devra donc faire le grand écart. Voici la passionnante affaire Henri Pacchioni, à la fin des années 90, dans la région de Marseille, que je débrieferai tout à l'heure avec l'avocat général Étienne Cecaldi, qui va réveiller pour nous de vieux souvenirs. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Elle est inquiète, Fernande. Ça fait 2 mois que Michel, sa fille, ne lui a donné aucune nouvelle. 2 mois. Et c'est pour ça que le 29 mai 1989, elle pousse la porte du bureau de police de Marignane, près de Marseille. Le policier qui l'accueille est un peu surpris.
Donne-moi sa nouvelle. Et vous vous inquiétez que maintenant?
Mais avec ma fille, disons que ça a toujours été compliqué. On ne se parle pas tous les jours, si vous voulez. Des fois, on ne s'appelle pas pendant longtemps, mais à ce point-là, quand même, 2 mois, sans un coup de fil, c'est pas normal. Et son ami Henri, c'est pareil, hein, lui non plus, il n'a pas de nouvelles. Ils ont pourtant une petite fille ensemble, Émilie. C'est lui qui l'élève. Mais ça fait 2 mois que Michel, elle n'a pas pris de nouvelles. C'est pas normal.
Et son nom, c'est
Moriamé. Michel Moriamé.
Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Et dans la foulée, 2 policiers vont chez Michel. Et ils enfoncent la porte. À l'intérieur, c'est étrange. L'appartement est presque vide. Rien dans les placards à part quelques robes. Quasiment plus de meubles, juste un lit dressé contre un mur. Et dans la salle de bain, une trousse de maquillage. Et Michel est coquette. Elle n'est pas du genre à oublier ses produits de beauté. Les policiers sont en train d'inspecter l'appartement quand un homme arrive.
Ne vous dérangez pas, hein. Je suis l'ex-compagnon de Michel, le papa de sa fille. Je suis juste venu chercher des affaires pour la petite.
Eh bien, vous tombez bien, vous. Vous avez des nouvelles de la mère?
Ah non, aucune. En même temps, c'est une habituée du genre, hein. Elle a la poudre d'escampette, Michel. Elle va, elle vient, au gré des hommes qu'elle rencontre. Et elle finira bien par rentrer, va, comme d'habitude. Vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle la pomponnette. Comme la chatte de Rému, dans La femme du boulanger. Elle va, elle vient. C'est la pomponnette.
Vous pouvez nous dire quel genre de relation vous avez avec elle?
Voilà. Entre Michel et moi, c'est une longue histoire.
Il explique qu'avec elle, ça a d'abord été un coup de foudre, mais que c'est fini depuis longtemps.
Vous savez, elle était secrétaire, hein? Et moi, j'étais plongeur. Plongeur sous-marin, à la Comex. Donc j'étais toujours parti. C'était le problème. Et elle, elle en a bien profité, quoi, hein. Après que notre petite fille est née, mais j'ai promis de partir moins souvent, mais bon, ça n'a pas tenu. Vous savez, c'est compliqué, dans notre métier. Et puis un jour, en rentrant de mission, j'ai trouvé la maison vide. Plus de femmes, plus d'enfants, et même plus de meubles. La pomponnette était partie, et voilà.
Il raconte que depuis, il a eu une tuile au boulot. Il s'est cassé la jambe lors d'une plongée, au large du Congo.
Et maintenant, je boite. Et donc, je peux plus plonger. Du coup, je tiens une laverie, là. Une petite laverie de quartier, voilà.
Mais depuis, vous la voyez? Vous avez continué à la voir?
Ah mais oui. Enfin, quand elle fait pas sa pomponnette, hein. Oui, on a continué à habiter ensemble, en fait. La semaine, quoi, pour la petite. Hein. Mais attention, hein. Chacun dans son lit. Elle est handicapée, notre fille. Elle est handicapée mentale. Et moi, le week-end, je la prends et je vais avec elle chez ma mère. Et là, vous n'avez aucune idée de là où elle est. Aucune. Elle vit sa vie. Et moi, je m'en fiche. En attendant, je m'occupe de la petite, comme d'habitude. Mais rassurez-vous, elle finira bien par appliquer, la pomponnette. Faites comme moi. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois qu'on a vu Michel, c'était le 31 mars. Et depuis, plus de nouvelles. Les policiers tentent de reconstituer sa dernière journée. Ils apprennent que Michel était sur le point de reprendre une petite boutique de fleurs dans le 3e arrondissement de Marseille. Et que le 31, elle a passé une bonne partie de sa journée au magasin pour apprendre le métier.
Je lui ai montré comment on confectionnait les couronnes, hein, une bonne partie l'après-midi.
Et à quelle heure est-ce qu'elle est partie?
Eh bien, vers 8h moins le quart. Oui, 8h moins le quart. Un homme est venu la chercher, un certain Paul, je crois. Et je pense qu'après, ils sont allés dîner.
Ce Paul, le dernier coup de foudre de la pomponnette, les policiers le retrouvent.
Eh bien, on est allé au restaurant. Et ensuite, elle est rentrée chez elle. Elle m'a dit à demain, en me disant de passer au magasin le lendemain matin. Et le lendemain, j'y suis allé et elle n'était pas là. Et depuis, pas de nouvelles. Comment est-ce que vous décririez votre relation? C'était une relation comme ça ou c'était plus sérieux? C'était sérieux, enfin, je crois. On avait commencé à parler mariage. Elle m'a dit le mariage d'accord, mais jamais sans ma fille. Mais moi, j'étais d'accord. Hein. Et depuis sa disparition, vous avez cherché à prendre des nouvelles? Ah oui. Oui, dès le lendemain. J'ai appelé le papa d'Émilie, Henri. Vous le connaissez?
Oui, on le connaît.
Mais il avait aucune nouvelle, lui non plus. Et tous les deux, on est allés chez elle et on a trouvé l'appartement vide, enfin, quasiment vide, et puis c'est tout, quoi. Moi, sur le moment, j'ai dit à Henri, faut prévenir la police. Et je dois dire que ça l'a fait beaucoup rire. Hein.
Ah bon? Et rire, pourquoi?
Eh bien, il m'a dit, prévenir la police parce que la pomponnette s'est fait la malle, elle est bien bonne, celle-là. Voilà. Elle t'a planté là, idiot. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'elle avait déjà fait ça avant, et qu'elle finirait par revenir, que c'était pas la peine de déranger les flics pour ça. Et bon, quoi, il la connaissait mieux que moi, et donc, j'en suis resté là, quoi. Même si ça m'a peiné. Enfin, la veille, on parlait mariage, et elle disparaît comme ça. Mais bon, depuis, je me suis fait une raison.
Les policiers interrogent ensuite les voisins. Et ce qu'ils racontent n'est pas très rassurant. Deux voisins ont entendu des cris ce soir-là.
C'était des cris de femmes. Vous savez, comme des appels à l'aide. À trois reprises au moins.
Et à quelle heure?
Un peu après minuit. Minuit et quart. Et après plus rien.
Une voisine raconte qu'une demi-heure plus tard, elle a entendu quelqu'un sortir de l'appartement.
J'ai même regardé par le judas. Mais j'ai rien vu, la minuterie s'est éteinte tout de suite.
Et aucun n'a jugé utile d'appeler la police. Bref. À ce moment-là de l'enquête, je vais être très honnête avec vous, les policiers ont déjà un suspect. Henri. Henri Pacchioni. Pour plusieurs raisons. D'abord, le pif. Le nez, ça fonctionne comme ça, un bon flic, au tarin. Et cette manière qu'il a tout le temps de dire que ça n'est pas la peine de la chercher et que la pomponnette reviendra toute seule. Ça sonne faux. D'autant que les voisins, encore eux, en rajoutent une couche. Alors moi, j'ai remarqué qu'Henri, dans les jours qui ont suivi la disparition de Michel, il avait le visage couvert de griffures. Alors, il a dit qu'il était tombé dans un champ d'asperges, mais moi, à ma connaissance, les asperges, ça griffe pas. Si ? Les asperges, non. Mais Michel, quand elle s'énervait, si. Ça, l'une de ses copines le confirme. Elle griffait. Et Paul aussi, son dernier amant. Un jour, elle m'a dit, quand on m'énerve, moi, je griffe. Assez vite, les policiers se rendent compte qu'Henri Pacchioni ne leur a pas tout dit. Parce qu'entre lui et Michel, c'était beaucoup moins apaisé qu'il ne le dit. Un jour, il lui a cassé le nez et elle a fait une main courante. Et le sujet des disputes en général, qu'est-ce que c'était ? Son côté pomponnette ? Eh ben pas du tout. C'était Émilie, leur fille. En général, c'est à son sujet qu'ils se disputaient. Car Émilie, ça je ne voulais pas encore dire, est psychotique. Et donc violente et imprévisible. Et d'après ce qu'on dit, Michel avait parfois du mal à la supporter. Parfois, elle lui collait des beignes. On dit même qu'elle lui filait des sédatifs dans le biberon. Et lui, Henri, il ne supportait pas qu'elle touche à Émilie. Lui, avec la petite, il était protecteur. C'était ça, le sujet de leur dispute. Et elle, Michel, elle voulait placer sa fille. Et lui disait, non mais vous vous rendez compte, elle veut la mettre dans un truc pour mongolos. Et c'est calmant qu'elle lui fait prendre depuis qu'elle est bébé. C'est ça qui la rend comme elle est. Michel rend notre fille folle. Est-ce qu'elle n'est pas là, la clé de la disparition de Michel ? C'est à ce moment-là que les policiers découvrent que Michel a fait un testament à 31 ans. Testament dans lequel, si elle venait à disparaître, elle confie la garde d'Émilie à ses parents, à qui elle aurait dit
« Henri, il est capable de mauvais coups. »
Décidément, tout nous ramène à lui. Il serait peut-être temps de le placer en garde à vue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voyons ce qu'il a dans le ventre. En garde à vue, Henri Pacchioni est prié de raconter sa soirée du 31 mars, veille de sa disparition. Eh bien, on a dîné chez des amis, à Saint-Rémy de Provence, avec Émilie. En rentrant, je me suis arrêté chez ma mère, mais pas longtemps parce que Émilie commençait à s'endormir. Alors, je suis rentré à la maison, j'ai couché la petite, et à ma foi, je me suis couché aussi. Et c'est que le lendemain que j'ai vu que Michel était parti. Au début, j'ai pensé qu'elle était en week-end. Moins. On n'y croit pas. Parce que cette nuit-là, il y a eu les cris. Monsieur Pacchioni, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour que le juge vous mette en examen pour meurtre. Alors, est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est vraiment passé ce soir-là ? Pour meurtre ? Bon, d'accord, je vous ai menti. Quand je suis rentré ce soir-là, Michel était là. Et on s'est engueulé. Et je reconnais que je lui ai flanqué une claque. Et puis à ce moment-là, la petite est arrivée, moi je voulais pas qu'elle voie ça, alors je l'ai ramenée dans sa chambre, et quand je suis revenu, Michel... Elle ne bougeait plus. Elle était affalée sur le sol. Quand je lui ai donné la claque, elle a dû heurter le bois du lit, quoi. Et elle s'est tuée. C'est un accident. Mais je me suis dit, elle a déjà porté plainte contre moi pour violence conjugale, ils vont pas m'en croire, les policiers. Ils vont me mettre en prison. Et là, j'ai pensé, qu'est-ce que va devenir Émilie ? qui va s'en occuper, et qui va me prendre soin. Ils vont la mettre dans une famille d'accueil, elle fait tout ça. Je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas. Alors il dit qu'il a roulé le corps de Michel dans un drap, qu'il l'a mis dans sa voiture, que la petite dormait à l'arrière, et qu'il est allé sous le pont de Martigues, où il a jeté le corps dans l'eau. Juge d'instruction lance immédiatement des recherches. Il envoie des plongeurs dans le canal de Martigues. On ne trouve rien. Pas de corps, et ça c'est très étrange, parce que c'est pas l'océan Atlantique, le canal de Martigues. Si on avait mis un corps dans le canal, on aurait dû le retrouver. En attendant, Pacchioni est mis en examen pour meurtre, avec préméditation, et il file en prison. Le juge demande aux policiers d'entendre la nounou d'Émilie. Il veut savoir si ce que dit le père est vrai. Comment Michel se comportait-elle avec sa fille? Est-ce que, comme le laisse entendre Henri, elle l'a maltraitée?
Mais c'est-à-dire que, effectivement, Émilie, comme tous les enfants psychotiques, elle pouvait faire une sacrée crise. Se rouler par terre au milieu de la rue en poussant des cris. Elle faisait ça souvent, hein. Et la mère, elle supportait pas trop ça. Hein. Quand elle la voyait se rouler par terre comme ça, elle la prenait par les cheveux pour la relever. Je crois qu'elle avait honte. Honte de ce que les gens pensaient.
Le juge demande alors une expertise psychiatrique d'Émilie, qui a maintenant 5 ans. Le résultat est stupéfiant. Écoutez plutôt. Le pédopsychiatre dit qu'elle a de très fortes carences intellectuelles. Il dit qu'elle parle à peine et qu'elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Mais le plus intéressant, c'est la suite. Car les troubles d'allure psychotique qu'elle manifeste, elle n'est pas née avec. Ça n'est pas la faute à pas de chance. Le pédopsychiatre écrit, je lis, ces troubles sont dus à des carences affectives précoces. Autrement dit, ce sont les parents qui l'ont rendu comme ça. L'environnement délétère et malsain dans lequel la petite fille a grandi. Elle a morflé, cette petite. Elle a sacrément morflé. Depuis que son père est en prison et sa mère, soi-disant au fond du canal de Martigues, Émilie vit chez sa grand-mère. Et lui, Henri Pacchioni, dans sa cellule de la prison de Luynes. Il déprime. Il va chaque jour un peu plus mal. Il ne supporte pas d'être séparé d'Émilie. Il s'enfonce dans la dépression. C'est à se demander s'il n'est pas devenu fou. Et maintenant, il dit toute la journée aux surveillants qu'il n'a pas tué Michel. Que c'est pas lui. Qu'il veut sortir, qu'elle a besoin de lui, et qu'il veut voir le juge. Et un matin d'octobre 1990, il tente de mettre le feu à sa cellule, avec du papier journal et de l'eau de Cologne. Il est brûlé à plus de 50%, au troisième degré. Il va passer un an et demi à l'hôpital. Mais il va survivre. Et on n'a toujours pas retrouvé le corps de Michel. Le procès d'Henri Pacchioni s'ouvre le 25 juin 1991. Et d'emblée, lui, qui dans les couloirs de sa prison hurlait « Je l'ai pas tué, je l'ai pas tué !» Maintenant, il plaide coupable. À celui-là, on aura toujours du mal à le suivre. D'autant que quand on l'interroge à l'audience sur la soirée fatidique du 31 mai 1989, il répond invariablement
« Et je n'en sais rien, je peux rien vous dire !»
Ce type est insaisissable. Et ça ne sont pas les témoins qui vont nous aider. Entre ceux qui disent
« C'était un père extraordinaire. toujours aux petits soins pour sa petite fille. Il y avait qu'elle qui comptait, quoi.
Et ceux qui viennent raconter ?
Henri, c'était une brute. Acariâtre, capable de pire colère, une brute.
Et au sujet de la victime, Michel, eh bien c'est pareil. Certains témoins disent...
Oh Michel, c'était une mère très très attentive, très douce aussi.
Et d'autres une heure plus tard qui disent...
Oh, elle était très méchante. Sans pitié avec Émilie, sans pitié. Et je crois qu'elle ne supportait pas son handicap mental.
Allez-vous faire une idée avec ça ? Le président fait venir Émilie à la barre. C'est gonflé. Une handicapée mentale, appelée à témoigner dans le procès de son père, accusée d'avoir tué sa mère. C'est gonflé et c'est gênant. Émilie ne comprend pas un mot de ce que le juge lui demande. Pire, avec sa poupée à la main, elle se met à courir le long des murs du tribunal en hurlant. Et de temps en temps, elle s'arrête et elle sourit à un policier ou à un avocat. Et elle reprend sa course. Dans son box, Pacchioni enrage.
Mais comment osez-vous ? Comment pouvez-vous demander son nom et son prénom et sa qualité à une gamine qui ne sait pas parler ?
Au deuxième jour du procès, coup de théâtre. On a retrouvé un corps à moins de 2 kilomètres du domicile de Pacchioni, à Marignane, au milieu d'un chantier de construction. Un corps sans tête, sans main et sans pied. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme.
Bien. Compte tenu de la découverte de ce corps et de la nécessité de mener des investigations complémentaires pour savoir s'il s'agit de la victime, le procès est ajourné. Je vous remercie.
Ajourné pour rien, d'ailleurs. Parce que je vous le dis tout de suite, on découvrira plus tard que le corps est celui d'un patron de discothèque, victime d'un règlement de compte. Mais en attendant, Henri Pacchioni ne retourne pas en prison. Depuis sa tentative de suicide, depuis qu'il a tenté de s'immoler par le feu, il a toujours besoin de soins médicaux. Alors on l'envoie dans un centre de rééducation. Un centre qui n'est donc pas une prison. Et là, il raconte son histoire et il attire la sympathie. Ce papa inconsolable qui du soir au matin ne parle que de sa petite fille handicapée. Et un jour, son voisin de chambre, qui est paraplégique, lui dit
« Mais qu'est-ce que tu fais là, vieux ? Tire-toi d'ici ! Pars avec ta fille ! Partez loin ! Émilie a besoin de toi !»
Et c'est ainsi qu'Henri Pacchioni se fait la belle, en passant tout simplement par la porte du centre de rééducation. À ce moment-là, il n'a qu'une idée. Émilie, évidemment. Récupérer Émilie, s'enfuir avec elle. Et la police qui commence à connaître l'oiseau, sans doute, bien sûr. Le juge envoie tout de suite une équipe planquée devant chez la grand-mère, puisque c'est là que vit la gamine. Quand il arrive sur place, Henri Pacchioni voit tout de suite la voiture des flics en planque. Sauf que lui, il sait qu'il y a une entrée derrière, alors il passe par derrière, il prend sa petite fille. Et il se tire, il part en cavale avec elle, loin, très loin. N'oubliez pas qu'il était plongeur professionnel, il connaît la planète entière, il a voyagé toute sa vie, il a des amis partout. Première étape, la Sardaigne, un petit village en bord de mer, où le père et sa fille se mêlent facilement aux vacanciers. Et avec sa gouaille, Henri se lie d'amitié avec tout un tas de gens du cru. Et là, Émilie devient son meilleur atout. Quoi de plus touchant que ce papa qui voyage avec sa petite fille handicapée et qui s'en occupe si bien ? Tout le monde veut l'aider. Alors il trouve un petit appartement et il gagne sa vie en pêchant des coquillages qu'il revend aux touristes. Et puis un jour, les carabinieri, intrigués par ce Français échoué sur leur île, s'aperçoivent qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Alors ils vont le voir, pour l'arrêter. Mais l'autre leur raconte son histoire. Et ça les touche. Et il lui suggère de foutre le camp, ils fermeront les yeux. Incroyable! Idem en Corse, où il échoue juste après. Il est repéré, mais une fois de plus, les policiers ferment les yeux. Et là, il s'envole vers le Brésil, où il vit tranquillement pendant 4 ans, sans jamais être inquiété, jamais. Il s'est fait faire de faux papiers. Maintenant, il s'appelle Henrique Pérez. Et il bricole dans le trafic d'émeraudes. Il a une grande maison, des nourrices à domicile pour s'occuper des minis. La grande vie, quoi. Au soleil, loin des emmerdes. Et l'argent qu'il gagne, il le place sur un compte en Suisse, figurez-vous. À son vrai nom. Et puis au bout de 4 ans, il s'embrouille avec ses associés. Et il rentre à Marseille. À Marseille ? Mais il est fou ! Il va se faire arrêter. En même temps, il rentre en France sous le nom de Henrique Pérez, avec ses faux papiers. Et personne ne cherche d'Henrique Pérez. Et donc arrivé à Marseille, Henri Pacchioni confie Émilie à des amis, et il s'envole pour le Zaïre. Oh, ça ne dure pas longtemps, ça. Des guerriers hutus lui volent son argent près de la frontière rwandaise. Retour à Marseille. Il récupère Émilie, et il s'installe dans un hôtel près de l'aéroport de Marignane, chez lui. C'est une erreur, et il se fait cueillir, bêtement, à cause de sa voiture qui n'est pas réglo-réglo. Ça attire l'œil des gendarmes. Et voilà, fin de la cavale, et retour en prison dans l'attente de son procès pour assassinat. Émilie est placée dans un centre pour handicapés mentaux, tout ce qu'il avait voulu éviter. Mais là, il n'a pas le choix. En octobre 1996, le voici de retour aux assises d'Aix-en-Provence. Et maintenant, en plus du meurtre de Michel, il doit répondre de son évasion. Il annonce la couleur dès le début du procès. « Je sais que dans cette affaire, tout est contre moi. Hein ? Alors, condamnez-moi. Condamnez-moi. » Ce qui ne l'empêche pas ensuite de nier les faits. Ah sinon, ça serait pas marrant. Il n'a pas tué Michel. Je ne veux pas qu'on puisse dire un jour à ma fille que j'ai tué sa mère. C'est faux. Comme la première fois, Émilie est appelée à la barre. Et comme la première fois, elle ne comprend rien. Le président insiste.
« Quel âge avez-vous, mademoiselle ?»«
J'ai 6 ans.
» Elle en a 12. Et cette scène met tout le monde mal à l'aise. Et dans son box, Pacchioni est décomposé. Et évidemment, tout le monde est très attendri par ce père qui n'a Dieu que pour sa fille. Sauf que ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Michel, qu'il est accusé d'avoir tué et dont on n'a toujours pas retrouvé le corps. Et les parents de Michel, installés au premier rang, sont là pour le rappeler. Ils le regardent droit dans les yeux. Mais ils ne lâchent rien. Et à la fin,
la cour vous condamne à une peine de 12 années de réclusion criminelle.
12 ans, plus 2 ans pour son évasion. Il s'en sort bien, et même très bien, alors que l'avocat général réclamait 20 ans. Disons que c'est l'effet Émilie, l'assassin qui n'est pas totalement un salaud. Henri Pacchioni part en prison, à Muret, près de Toulouse. Et là encore, ma foi, il continue à toucher les gens. Le juge d'application des peines notamment, qui au bout de 18 mois de prison, lui donne une permission de 12 jours pour aller voir sa fille. Je ne critique pas la décision, hein. Mais croyez-moi, c'est le genre de décision extrêmement rare, très rare, je dirais presque du jamais vu. Et ça continue. Condamné à 12 ans, Pacchioni est libéré au bout de 7 ans. Et depuis, eh bien, il vit toujours avec Émilie, à Marseille. avec comme tous les parents qui vieillissent, Henri a 72 ans aujourd'hui, la hantise d'abandonner Émilie quand il mourra. Voilà, je ne vous en ai pas raconté souvent des histoires comme celle-là. Et pour la débriefer, j'ai demandé à l'avocat général Étienne Checaldi, qui a porté l'accusation au procès, enfin à la première tentative de procès et au procès final, d'être là avec moi. Peut-être d'abord, monsieur Checaldi, un commentaire sur le verdict et le quantum de la peine. Vous aviez demandé 20 ans, vous.
Oui, bien sûr, j'ai demandé 20 ans. Pour montrer que je n'avais aucun doute sur la responsabilité de Pacchioni dans le meurtre de son ex-compagne. J'ai peut-être un peu forcé par rapport à ce que j'aurais voulu qu'on prononce, mais c'était cette intention-là, à dire je n'ai strictement aucun doute, vous ne devez avoir aucun doute. Et ce qui a joué dans le fait que je n'ai pas, alors que c'était mon habitude, obtenu la peine que j'avais demandé, c'est ce que vous avez indiqué, l'effet Émilie, cet enfant handicapé qui n'a plus que son père et qui a besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle à temps complet, voilà.
De combien vous avez été un peu fort? Vous avez demandé 20 ans, si vous aviez écouté votre cœur.
Je ne suis pas de ceux qui demandent des peines lourdes pour avoir des peines modérées, en réalité... Il me semble que quelqu'un qui aurait comparu normalement sans cet effet Émilie dont vous avez parlé aurait dû obtenir une peine d'une quinzaine d'années, voilà. Parce que le temps avait passé, parce que Moriamé n'était toujours pas là, parce que il y avait cette nécessité d'assurer un père à cette petite enfant très lourdement handicapée.
Du coup, 12 ans, ça vous paraît juste?
Ça me paraît en dessous de ce qui était mérité, à mon sens.
Pour vous, c'était 15, quoi.
Ma foi, dans le prononcé des peines, vous savez, à un an, deux ans, trois ans près, il y a une espèce de barème qui s'instaure. Et la seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'il y ait une logique et une cohérence entre les peines prononcées. C'est une peine qui était, me semble-t-il, un peu inférieure à ce qui aurait dû être prononcé d'après l'espèce de barème informel qui existe devant toutes les cours d'assises.
Racontez-nous d'ailleurs ce qui se passe pendant tout ce procès dans votre tête et votre cœur d'avocat général. Vous devez permanence lutter contre l'empathie que vous avez pour l'accusé, quoi, c'est ça ?
Non, je ne dirais pas que j'avais de la sympathie pour l'accusé. Disons que je le comprenais beaucoup, plein de choses faisaient que je le comprenais. D'abord, c'est un homme qui a mené une vie à peu près normale. C'est pas de ces gens qui sortent d'un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pratiqué, de tiers-monde ou le monde de la nuit, etc. C'est un homme qui a eu une vie déjà avant Moriamé, qui a eu une femme, des enfants. Et donc, c'est un personnage qui physiquement se présente comme un espèce de géant blond, aux yeux bleus, avec cet accent méridional qui rend tout de suite les choses moins sérieuses, même les crimes, si j'osais dire. Et donc, c'est un personnage en plus qui est méditerranéen, qui a des ascendances mi-corse, mi-siciliennes, donc beaucoup de choses que je comprends peut-être un peu mieux que d'autres. Et c'est un personnage qui suscite la sympathie, il a toujours ce sourire, il est débonnaire, voilà. Et donc, je le comprends, et lui-même cherche, dans mon regard et dans son comportement, à me dire d'une manière, comment dirais-je, muette, comprenez-moi, je peux pas tout dire. Il le manifeste de manière très claire, et je pense qu'il est tout à fait conscient de ça. Et donc, je le comprends, mais moi, je suis pas là pour sympathiser avec les criminels. Même si je n'ai pas de haine personnelle, même si je m'abstiens de toute considération personnelle, ce qui me choque le plus dans cette affaire, indépendamment du meurtre lui-même, c'est le procès qu'on a institué dès l'origine contre cette femme qu'on a présentée comme une demi-prostituée, comme une femme légère. Je ne retiens pas l'espèce de sympathie. En tout cas, je n'ai aucune hostilité personnelle, j'en ai jamais eu avec les accusés. Mais celui-là en particulier, je le comprends un peu peut-être mieux que d'autres l'auraient compris.
Et le juge d'application des peines est dans la même lignée que le jury, que vous-même. Condamné à 12 ans, il en fait 7. C'est de coutume, les remises de peine, mais...
C'est critiquer un juge d'application des peines, comme ça a été le cas dans d'autres affaires où même un ministre est allé critiquer la décision d'un juge d'application des peines. Le juge d'application des peines, il tient compte de la situation telle qu'elle est. Moi-même, je tiens compte du fait que cet homme est le seul capable de s'occuper de cet enfant handicapé. Les jurés aussi, et le juge d'application des peines, encore plus que tous. Parce qu'au fond, le juge d'application des peines, il n'est pas là pour refaire un procès, ni rajouter une sanction. Il est là pour prendre la décision dans le cadre des lois qui permettent de faire en sorte que le condamné puisse réintégrer la société sans danger pour les autres. Il a pris une décision que je comprends parfaitement.
Selon vous, Monsieur Cecaldi, pourquoi est-ce que Pacchioni tue Michel?
Alors, si on va rechercher au-delà des circonstances ponctuelles, ce qui s'est passé ce soir-là, etc., je crois que le divorce, la fracture entre Moriamé, la mère, et Pacchioni, c'est une divergence sur la réalité psychique de l'enfant.
Vous y croyez à ça, vous ?
Je suis certain à partir du dossier. Je n'ai pas de sentiment. Moi, j'étudie en fonction des pièces et de ce que les gens disent et de ce qui est établi. Ce qui est sûr, c'est que Pacchioni refusait de considérer que cet enfant est handicapé. Alors, les causes du handicap, c'est un autre problème. Mais en tout cas, l'enfant était handicapé, gravement. On l'a vu au procès, et c'est une chose qui n'a pas desservi, au contraire, Pacchioni. Le président l'a fait comparaître, de manière à ce qu'on se rende compte, et on s'en est rendu compte tout à fait, de l'état réel, mieux que dans des rapports d'expertise psychiatrique. Cet enfant était lourdement handicapé. Pacchioni refusait, comme souvent les parents, de voir le handicap. Ce qui n'était pas le cas de la mère, qui, contrairement à ce qu'on dit, faisait suivre cet enfant de manière régulière par un pédopsychiatre. Elle effectuait les soins qui lui étaient prescrits. Elle la faisait visiter régulièrement. La mère était tout à fait consciente du handicap. Pourquoi le handicap? Ça, c'est un autre problème, parce que le psychiatre indiquait que probablement l'enfant avait subi un traumatisme violent. Il faut dire que la mère avait été plongée accidentellement ou pas dans une baignoire d'eau bouillante et que l'enfant avait assisté à cette scène.
Il y a quand même une hypothèse qui est intéressante, c'est qu'il y a des maltraitances conjugales quand même derrière. Il y a des violences conjugales de la part de Pacchioni. Il y a ce coup de poing qu'il a donné, il y a cette main courante qu'elle a déposée. C'est-à-dire qu'à force de le trouver sympathique, on oublie quand même qu'il a mangané sa femme, quoi.
Ben, écoutez, j'ai dit, j'ai constaté que les absents ont toujours tort, et on a beau faire, et ce que j'ai essayé de faire, c'est reconstituer un procès de cette victime plus proche de la réalité que ce qu'en avait décrit Pacchioni, parce que tout le camp Pacchioni, pour la défense, ce qui se comprend, on eut de cesse que de noircir le personnage de la mère. Mais les violences, elles sont avérées, et avant même le meurtre, par des coups portés par Pacchioni sur sa compagne, par une plainte ou plusieurs plaintes, je n'ai plus le détail en tête, qu'elle avait déposées au commissariat de police. Je veux dire, c'est un homme qui, malgré la sympathie, est un homme qui est capable de violence. Bon, et donc... La stratégie dès l'origine a été, il le dit d'ailleurs dès l'origine aux policiers qu'il rencontre presque fortuitement au domicile de son ex-compagne, mais c'est la pomponnette. Voilà, c'est une femme légère qui se fait sauter partout, une demi-pute en quelque sorte, qui part avec le premier venu, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, au moment où il l'a tué, c'est une femme qui a un projet de vie, c'est une femme qui a la tête sur les épaules, qui à 30 ans a déjà fait un testament parce qu'elle
craint. Oui, quand même, j'allais en parler.
Elle craint, peur. Et elle dit de qui et de quoi elle craint. Et c'est une femme qui a un projet de vie. Elle a un projet de vie, elle a fait des études, si on peut dire, en tout cas elle a fait des stages pour apprendre le métier de fleuriste. Elle a un contrat, un bail qui a été signé. Elle a un projet de vie avec un homme éminemment respectable, qui a une profession respectable, avec lequel elle va se marier, il en est question, et avec lequel la seule condition qu'elle pose et qui montre l'attachement qu'elle porte à sa fille, c'est « Oui, mais je t'épouse si tu acceptes et si tu prends ma fille en charge. » Donc, on a fait par stratégie, et le plus naturellement du monde, Pacchioni et tout le clan Pacchioni, et la belle-mère en particulier, si je peux dire, bien qu'elle n'ait pas été mariée, ils se sont évertués à faire de Michel Mauriamet le portrait d'une femme légère, d'une mère indigne, d'une mère qui battait son enfant à partir d'un témoignage de quelqu'un qui dit que on lui a vu donner une gifle à l'enfant. Bon, c'est très facile parce que dans ces procès-là, on a beau le savoir, ben, l'absence de la victime est tragique, et dans ce cas-là en particulier, c'est la porte ouverte à toutes les accusations, comme dans les affaires de viol, où c'est toujours la faute de la femme. Là, c'est la faute de la mère. On en est presque arrivé au point que, et certains de mes amis me l'ont dit après l'émission à la télé, comment as-tu pu demander 20 ans contre ce brave homme? Bon, ben, n'oublions pas.
Faut pas exagérer.
Voilà. Ouais.
Il a battu sa femme. Je me demandais d'ailleurs, en vous écoutant, si on n'était pas typiquement dans un verdict des années 90. Si aujourd'hui, l'aspect féminicide de ce meurtre ne serait pas plus mis en avant.
Oui, et
du coup, la responsabilité de Pacchioni plus importante.
Certainement. J'ai dû remonter, si vous voulez, en quelque sorte, une ambiance de machisme ambiant méditerranéen, en quelque sorte, facilisé par le fait que Mauriamet n'était plus là. Elle n'était plus là, donc on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur son compte. Je pense qu'actuellement, il n'aurait pas été condamné.
Ça ne serait pas passé comme ça.
C'est sans doute à une peine plus proche de ce que j'avais demandé.
Intéressant. Merci beaucoup, Étienne Checaldi, d'avoir réveillé votre mémoire 30 ans après.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.